André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
Le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer du nord. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
Aujourd'hui, cinquième émission de la série sur l'œuvre de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, avec le roman La Comtesse de Cagliostro. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous et merci aussi pour vos lectures des extraits du texte de Maurice Leblanc. Âgé de 20 ans, Arsène Lupin, jeune amant de Clarisse Détigues, sauve une certaine Joséphine Balsamo, que le père et le cousin de Clarisse ont tenté de tuer sur ordre de Beaumagnan. Beaumagnan et ses amis étaient des royalistes engagés. Joséphine Pellegrini Balsamo était comtesse de Cagliostro, née à Palerme le 29 juillet 1788 d'une liaison de Joseph Balsamo et de Joséphine de la Pagerie. Âgée de quelque 106 ans, mais en paraissant 30, elle serait une espionne, traîtresse, voleuse et meurtrière qui aurait profité du secret de longue vie et de jeunesse de Cagliostro. Lupin va osciller entre son amour pour Clarisse et son amour passion pour Joséphine, qui lui inspire aussi de la haine. De plus, il est sur la piste d'un secret déjà recherché par Joséphine de Beaumagnan et leurs amis. En 1894, Raoul d'Andrézy a 20 ans. Il aime Clarisse Détigues, mais sans le sou et sans appui, ne peut prétendre à sa main que le père de Clarisse lui a durement refusé. Ce père que Raoul observe car il semble avoir des choses à cacher. En effet, le hobereau normand fait partie d'une conjuration de 12 hommes qui tentent de retrouver un mystérieux trésor. Ces hommes se heurtent à une femme non moins mystérieuse que le trésor qu'elle poursuit également, la comtesse de Cagliostro, prétendue descendante du mystérieux Joseph Balsamo et qui aurait, comme son père, le secret de la jeunesse éternelle. Ces 12 hommes, avec à leur tête Beaumagnan, font prisonnière la comtesse et Beaumagnan, amoureux et conduit, religieux, défroqué, décide de la mettre à mort. Voici un premier extrait, Évasion et mystère de Joséphine, car après avoir sauvé Joséphine, Raoul l'emmène dans une grange pour la protéger. Cependant, au matin, il découvre qu'elle a disparu, laissant derrière elle une photo d'elle et un message mystérieux de remerciement. Elle indique qu'elle ne souhaite pas être revue par son sauveur. Raoul soigne Joséphine et la cache dans une grange. Il se réveille le lendemain et ne trouve plus Joséphine. Il découvre une photo de la comtesse de Cagliostro avec un message de remerciement. Premier extrait. Joséphine est sauvée de la noyade par Raoul, lui par Philippe.
Que je me présente d'abord un peu plus régulièrement, quoique je ne sois guère présentable, pour tout costume, quelque chose comme un caleçon de bain là, que je me suis confectionné et auquel j'avais attaché un couteau. Donc, Raoul d'Andrézy, pour vous servir, puisque le hasard me le permet. Oh, un hasard bien simple, une conversation surprise. J'ai su qu'on machinait un complot contre une certaine dame. Alors, j'ai pris les devants. Je suis descendu sur la plage et quand les deux cousins ont débouché du tunnel, je suis entré dans l'eau. Il ne me restait plus qu'à m'accrocher à votre barque dès que celle-ci fut à la remorque. C'est ce que j'ai fait. Et ni l'un ni l'autre ne s'avisa qu'ils amenaient avec leur victime un champion de natation bien résolu à la sauver. J'ai dit, je vous raconterai cela par le détail plus tard et lorsque vous m'entendrez. Pour l'instant, j'ai l'idée que je bavarde dans le vide. Il s'arrêta une minute. Je souffre, dit-elle. Je suis épuisé. Il lui répondit, un conseil, perdez connaissance. Rien ne repose comme de perdre connaissance. Elle dut lui obéir, car, après quelques gémissements, elle respira d'un souffle calme et régulier. Raoul lui couvrit le visage et repartit, en concluant, « C'est préférable, j'ai toute latitude pour agir, et je ne dois de compte à personne. » Ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs de monologuer avec toute la satisfaction de quelqu'un qui est enchanté de soi-même et de ses moindres actes. Le canot filait prestement sous son impulsion, la masse des falaises se devinait. Lorsque le fer de la quille grinça sur les galets, il sauta, puis enleva la jeune femme avec une aisance qui prouvait la valeur de ses muscles, et la déposa contre le pied de la falaise. « Champion de boxe aussi, » dit-il, « et de lutte romaine également. Je vous avouerai, puisque vous ne pouvez m'entendre, que j'ai trouvé ces mérites dans l'héritage de papa, et combien d'autres. » Mais assez de balivernes. Reposez-vous ici, sous cette roche où vous êtes à l'abri des flots perfides. Quant à moi, je repars. Je suppose qu'il est dans vos projets de prendre votre revanche sur les deux cousins. Pour cela, il est nécessaire que l'on ne retrouve pas la barque et que l'on vous croie bel et bien noyé. Donc, un peu de patience. Sans plus tarder, Raoul d'Andrézy exécuta ce qu'il avait annoncé. De nouveau, il conduisit la barque en pleine mer, enleva le bouchon de lège. Et, certain qu'elle disparaîtrait, se mit à l'eau. De retour sur le rivage, il chercha ses vêtements qu'il avait dissimulés dans une anfractuosité, se débarrassa de son espèce de caleçon de bain et se rhabilla. « Allons, » dit-il, en rejoignant la jeune femme. « Il s'agit de remonter là-haut, et ce n'est pas le plus commode. » Elle sortait peu à peu de son évanouissement, et au clair de sa lanterne, il vit qu'elle ouvrait les yeux. Aidée par lui, elle essaya de se mettre debout, mais la douleur lui arracha un cri, elle retomba sans force. Il dénoua le soulier et vit aussitôt que le bas était couvert de sang. Blessure un peu dangereuse, mais qui la faisait souffrir. Avec son mouchoir, Raoul banda la cheville provisoirement et décida le départ immédiat. Il la chargea donc sur son épaule et commença l'escalade. 350 marches. Si Godefroy, Détigue et Beneteau avait eu du mal dans la descente, combien d'efforts contraires étaient plus rudes, effectués par un adolescent. 4 fois, il dut s'arrêter, couvert de sueur, avec la sensation qu'il lui serait impossible de continuer.
Bien sûr, Raoul va la sauver et l'aimer, cette jeune femme de 100 ans. Il va aussi entrer dans cette course au trésor du fond des âges. Arrivé bon dernier au milieu de cette lutte sans merci, Raoul va devoir user de toutes les qualités de Lupin pour parvenir le premier à dénouer la première des 4 énigmes laissées par Cagliostro, celle du chandelier à 7 branches. Voici un 2e extrait du chapitre 6, Gendarmes et policiers. La fuite et la protection de Joséphine. Raoul est sauvé par Joséphine Balsamo alors qu'il est poursuivi par des hommes en colère. Ensemble, ils s'échappent. Dans une vieille berline, Joséphine révèle qu'elle est en danger et que la police la recherche. Raoul prend des mesures pour déguiser Joséphine et la protéger des gendarmes. Ils échappent à leurs poursuivants, mais la tension entre eux grandit. Voici un 2e extrait, lecture par Philippe.
Quand j'éprouverai quelques désillusions, à la bonne heure, fit-elle. Voilà le grand mot lâché. Vous êtes déçu. Vous couriez après un beau rêve et tout s'évanouit. La femme vous apparaît telle qu'elle est. Répondez franchement, puisque nous en sommes aux explications loyales. Vous êtes déçu, hein ? Il dit le mot d'un ton sec. Oui. Il y eut un silence, elle le regardait profondément et elle chuchota. Je suis une voleuse, hein, n'est-ce pas ? Voilà ce que vous voulez dire, hein ? Une voleuse, hein ? Oui. Elle sourit et prononça. Et vous ? Et comme il se rebiffait, elle le saisit rudement à l'épaule et lui jeta avec un tutoiement impérieux. « Et toi, mon petit, qu'est-ce que tu es ? Car enfin, il faudrait bien étaler ton jeu aussi. Qui es-tu ? Ben, je m'appelle Raoul d'Andrézy. Des blagues, tu t'appelles Arsène Lupin. Ton père Théophraste Lupin, qui cumule le métier de professeur de boxe et de savate avec la profession plus lucrative d'escroc, fut condamné et emprisonné aux États-Unis où il mourut. Ta mère reprit son nom de jeune fille et vécut en parente pauvre chez un cousin éloigné, le duc de Dreux-Soubise. Un jour, la duchesse constata la disparition d'un joyau de la plus grande valeur historique qui n'était autre que le fameux collier de la reine Marie-Antoinette. Malgré toutes les recherches, on ne sut jamais qui était l'auteur de ce vol, exécuté avec une hardiesse et une habileté diaboliques. Moi, je le sais. C'était toi. Tu avais 6 ans.
La comtesse de Cagliostro nous offre un privilège rare. Assister à la naissance d'une légende. Dans ce roman, Maurice Leblanc nous présente un Arsène Lupin à l'aube de sa carrière criminelle, alors qu'il n'est encore qu'un jeune homme de 20 ans, se faisant appeler Raoul d'Andrézy. Ce jeune Lupin possède déjà les traits qui feront sa renommée future. Une intelligence vive, un charme irrésistible, une audace sans bornes et ce mélange unique d'insolence et d'élégance qui deviendra sa marque de fabrique. Pourtant, il n'est pas encore le gentleman cambrioleur accompli que les lecteurs connaissent. Voici un troisième extrait du chapitre sur l'assassinat de Brigitte, confrontation entre Raoul et Joséphine. Raoul confronte Joséphine Balsamo et exigeant qu'elle révèle des informations sur son passé et les crimes qu'elle pourrait connaître. Malgré ses tentatives de manipulation, Raoul impose sa volonté et obtient finalement des promesses de sa part. Il déclare qu'il ne veut pas être impliqué dans le meurtre. Joséphine utilise des pleurs et des promesses pour tenter de le convaincre. Raoul insiste sur la nécessité de la lumière et de la vérité. Joséphine finit par céder, reconnaissant que leur amour est en jeu. Voici le début de la troisième lecture par Philippe.
Pourquoi me regardes-tu ainsi, Raoul ? Il mit un certain temps à lui répondre. Les mots qu'il allait prononcer étaient effrayants et il a dévisagé pour ne pas perdre un seul tressaillement de ses muscles ni un seul clignotement de ses yeux. Il murmura « Brigitte Rousselin a été assassinée ». Brigitte Rousselin ? Oui, l'actrice d'hier soir, celle au bandeau de pierrerie. Et tu n'oseras pas dire que tu ne sais pas qui est cette femme, puisque tu es ici chez elle et puisque tu as chargé Léonard de t'avertir aussitôt la besogne faite. Elle parut bouleversée. Léonard ? Ça serait Léonard ? Oui, oui, affirma-t-il, celui qui a tué Brigitte. Je l'ai surpris qu'il la tenait au cou de ses deux mains. Il a vu qu'il tremblait et elle tomba assise en balbutiant. « Ah, le misérable, est-il possible qu'il ait fait cela ?» Et plus bas encore, avec une épouvante qui croissait à chaque mot, « Il a tué, mais est-ce possible ? Il m'avait pourtant juré que jamais il ne tuerait. Il me l'avait juré, oh, je ne veux pas croire. » Était-elle sincère ? Ou jouait-elle la comédie ? Léonard avait-il agi sous le coup d'une folie subite ou d'après les instructions qui lui ordonnaient le crime quand la ruse échouait ? Question redoutable que Raoul se posait sans pouvoir y répondre. Joséphine Balsamo releva la tête, observa Raoul de ses yeux pleins de larmes, puis brusquement se jeta sur lui, les mains jointes. « Raoul, pourquoi me regardes-tu ainsi ? Non, n'est-ce pas ? Tu ne m'accuses pas ?» « Ah, ce serait terrible. Tu pourrais croire que je savais que j'ai commandé ou permis ce crime abominable ? Non, jure-moi que tu ne crois pas. Oh, Raoul, mon Raoul !» Un peu brutalement, il la contraignit à s'asseoir. Ensuite, il repoussa Léonard dans l'ombre, et après avoir fait quelques pas de long en large, il revint vers la Cagliostro et la saisit à l'épaule. « Écoute-moi, Josine, prononça-t-il lentement, d'une voix qui était celle d'un accusateur et même d'un adversaire beaucoup plus que d'un amant. Écoute-moi, si d'ici une demi-heure tu n'as pas fait la pleine clarté sur toute cette affaire et sur les machinations secrètes qui la compliquent, j'agis envers toi comme envers une ennemie mortelle de gré ou de force. Je t'éloigne de cette maison et sans la moindre hésitation, je vais dénoncer au plus proche commissariat de police le crime que ton complice, Léonard, vient de commettre sur la personne de Brigitte Rousselin. Après quoi, tu te débrouilleras. Vas-tu parler ?
Après la confrontation d'explication de Raoul et de Joséphine, la tentative de meurtre de Joséphine à l'égard de Clarisse, la fiancée de Raoul. Voici un quatrième extrait, lecture Françoise.
N'est-ce pas, Joséphine, que tu es effrayée toi aussi par moments ? N'est-ce pas ? Il arrive que tu te fasses horreur. La détresse de Joséphine était si profonde qu'elle murmura. Oui, oui, quelquefois. Mais il ne faut pas m'en parler. Je ne veux pas savoir. Tais-toi. Tais-toi. Mais au contraire, dira Louis, il faut que tu saches, si tu as l'horreur de tel acte, pourquoi les commettre ? Je ne peux pas faire autrement, dit-elle, avec une lassitude extrême. Tu essaies donc ? Oui, j'essaie, je lutte, mais c'est toujours la défaite. On m'a appris le mal. Je fais le mal comme d'autres font le bien. Je fais le mal comme on respire. On a voulu cela. Qui ? Il entendit confusément ces deux mots. Ma mère. Et reprit aussitôt. Ta mère, l'espionne ? Celle qui a combiné toute cette histoire Cagliostro ? Oui. Mais ne l'accuse pas. Elle m'aimait bien. Seulement, elle n'avait pas réussi. Elle était devenue pauvre, misérable. Elle voulait que je réussisse et que je sois riche. Mais tu étais belle, cependant. La beauté pour une femme, c'est la plus grande richesse. La beauté suffit. Ma mère était belle aussi, Raoul. Et pourtant, sa beauté ne lui avait servi à rien. Tu lui ressemblais. À s'y méprendre. Et c'est ça qui fut ma perte. Elle a voulu que je continue ce qui avait été sa grande idée. L'héritage Cagliostro. Elle avait des documents. Un bout de papier. Le papier des quatre énigmes qu'une de ses amies avait trouvé dans un vieux livre et qui semblait réellement de l'écriture de Cagliostro. Ça l'avait grisé, ainsi que son succès auprès de l'impératrice Eugénie. Alors j'ai dû continuer. Et tout enfant, elle m'a entré ça dans la tête. On m'a formé un cerveau avec cette idée-là seulement. Ça devait être mon gagne-pain, ma destinée. J'étais la fille de Cagliostro. Je reprenais sa vie à elle et sa vie à lui. Une vie brillante comme celle qu'il avait eue dans les romans. La vie d'une aventurière adorée de tous et dominant le monde. Pas de scrupules, pas de conscience. Je devais la venger de tout ce qu'elle avait souffert elle-même. Quand elle est morte, c'est le mot qu'elle m'a dit. « Venge-moi. » Raoul réfléchissait. Il prononça « Soit. » Mais les crimes, ce besoin de tuer. Il ne put saisir sa réponse et pas davantage ce qu'elle répliqua lorsqu'il lui dit « Ta mère n'était pas seule à t'élever, Josine, à te dresser au mal. Qui était ton père ?» Il crut entendre le nom de Léonard. Mais voulait-elle dire que Léonard était son père, que Léonard était l'homme qui avait été expulsé de France en même temps que l'espionne ? Cela semblait assez plausible. Ou bien que Léonard l'avait dressé au crime. Raoul n'en sut pas davantage et ne put pénétrer dans ces régions obscures où s'élaborent les mauvais instincts et où fermentent tout ce qui est déséquilibre, tout ce qui détraque et désagrège, tous les vices, toutes les vanités, tous les appétits sanguinaires, toutes les passions inexorables et cruelles qui échappent à notre contrôle.
Et maintenant, la chute de Joséphine Balsamo. Dans un acte désespéré, Joséphine tente de tuer Raoul. Elle tire sur lui, mais il parvient à dévier le coup. Elle se blesse elle-même. Raoul, bien que choqué, ne montre aucune pitié. Elle est blessée à la poitrine, mais sa vie n'est pas en danger. Raoul hésite à la blesser davantage, se remémorant leur passé commun. Il décide de la laisser derrière lui, indifférent à son sort. Voici l'extrait numéro 5, lecture Françoise.
« Ne me repousse pas, disait-elle. Tu es le seul être au monde qui aurait pu me sauver du mal. » Je l'ai senti tout de suite. Il y a en toi quelque chose de saint, de bien portant. Ah, l'amour, l'amour. Il n'y a que lui qui m'est apaisé, et je n'ai jamais aimé que toi. Alors si tu me rejettes, les lèvres douces pénétraient Raoul d'une langueur infinie. Toute la volupté et tout le désir embellissaient cette compassion dangereuse qui amollit la volonté des hommes. Et peut-être, si la Cagliostro se fût contentée de cette humble caresse, eût-il succombé de lui-même à la tentation de se pencher et de goûter une fois encore la saveur de cette bouche qui s'offrait à lui. Mais elle releva la tête. Elle glissa ses bras le long des épaules. Elle lui entoura le cou, elle le regarda, et ce regard suffit pour que Raoul ne vit plus en elle la femme qu'il implore, mais celle qui veut séduire et qui se sert de la tendresse de ses yeux et de la grâce de ses lèvres. Le regard lit les amants. Mais Raoul savait tellement ce qu'il y avait derrière cette expression charmante, ingénue et douloureuse. Il se dégagea de la tentation et, repoussant la sirène qui l'enlaçait, il lui dit « Tu te rappelles, un jour, sur la péniche, nous avons eu peur l'un de l'autre comme si nous cherchions à nous étrangler. Il en est de même aujourd'hui. Si je retombe dans tes bras, je suis perdu. Demain, après-demain, c'est la mort. » Elle se redressa tout de suite, hostile et méchante. L'orgueil l'envahissait de nouveau et la tempête s'éleva brusquement entre eux, les faisant passer, sans transition, de l'espèce de torpeur où les attendait le souvenir de l'amour à un âpre besoin de haine et de provocation. « Eh oui, reprit Raoul, au fond, dès le premier jour, nous avons été des ennemis féroces, l'un et l'autre. Nous ne pensions qu'à la défaite de l'autre, toi surtout. J'étais le rival, l'intrus. Dans ton cerveau, mon image se mêlait à l'idée de la mort. Volontairement ou non, tu m'avais condamné. » Elle secoua la tête et d'un ton agressif, « Jusqu'ici, non. Mais maintenant, oui, n'est-ce pas ?» « Seulement, s'écria-t-il, un fait nouveau se présente, c'est que maintenant, je me moque de toi, Joséphine. L'élève est devenu le maître, et c'est cela que j'ai voulu te prouver en te laissant venir ici et en acceptant la bataille. Je me suis offert seul à tes coups et aux coups de ta bande. Et voilà que nous sommes l'un en face de l'autre et que tu ne peux rien contre moi. Des routes sur toute la ligne, hein ? Clarisse vivante, moi libre. « Allons, ma belle, décampe de ma vie. Tu es battue à plat de couture et je te méprise. » Elle était blême. Son visage se décomposait et pour la première fois, son inaltérable beauté accusait certains signes de déchéance et de flétrissure. Elle grinça. « Je me vengerai. Impossible, ricana Raoul. Je t'ai coupé les ongles. Tu as peur de moi. Voilà ce qui est merveilleux et qui est mon œuvre aujourd'hui. Tu as peur de moi. Toute ma vie sera consacrée à cela, murmura-t-elle. Rien à faire. Tous tes trucs sont connus. Tu as échoué. C'est fini. » Elle hocha la tête. J'ai d'autres moyens. Lesquels ? Cette fortune incalculable. Ces richesses que j'ai conquises. « Grâce à qui ?» demanda Raoul allègrement. « S'il y a un coup d'aile dans l'étrange aventure, n'est-ce pas moi qui l'ai donné ?»« Peut-être, mais c'est moi qui ai su agir et prendre, et tout est là. Comme parole, tu n'es jamais en reste. Mais il fallait un acte en cette occasion, et cet acte, je l'ai accompli. Parce que Clarisse est vivante, que tu es libre, tu cries victoire. » Mais la vie de Clarisse et ta liberté, Raoul, ce sont des petites choses auprès de la grande chose qui était l'enjeu de notre duel, c'est-à-dire les milliers et les milliers de pierres précieuses. La vraie bataille était là, Raoul, et je l'ai gagnée, puisque le trésor m'appartient. « Sait-on jamais ? » dit-il d'un ton gouailleur.
La Cagliostro leva sur lui des yeux effarés. Ce roman, La Comtesse de Cagliostro, a pour cadre, entre autres, l'abbaye de Jumièges, en Normandie. Et c'est dans cette histoire que nous apprenons les quatre énigmes gravées sur la monture du miroir magique de Cagliostro que ce dernier n'eut pas le temps de résoudre. La première énigme, c'est « In robore fortuna ». La fortune est au cœur du chêne. Énigme qui est déchiffrée par Dorothée dans le récit de Dorothée, danseuse de cordes. La deuxième, la dalle des trois rois de Bohême, énigme résolue par Lupin dans le récit de l'île aux 30 cercueils. La troisième, la fortune des rois de France, résolue par Lupin dans le récit de l'aiguille creuse dont nous avons parlé précédemment. Et ensuite, la dernière, énigme, le chandelier à sept branches, énigme qui ne résistera pas non plus à Lupin dans le présent récit devançant ses adversaires, dont la comtesse. Voici le texte qu'on trouve en épigraphe du roman et qui résume parfaitement l'intrigue. C'est ici la première aventure d'Arsène Lupin et sans doute eût-elle été publiée avant les autres s'il ne s'y était pas maintes fois et résolument opposé. Non, disait-il, entre la comtesse de Cagliostro et moi, tout n'est pas réglé. Attendons. L'aventure dura plus qu'il ne le prévoyait. Un quart de siècle se passa avant le règlement définitif. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il m'est permis de raconter ce que fut l'effroyable duel d'amour qui mit aux prises un enfant de 20 ans et la fille de Cagliostro. Merci Françoise, merci Philippe, à très bientôt pour notre prochaine émission dans laquelle nous parlerons de la suite, la Cagliostro se venge. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour. Raoul avait demandé au baron la main de sa fille et là, et c'est là qu'il avait été accueilli par une explosion de colère indignée dont il gardait un souvenir désagréable. Elle est bien sûr de Maurice Leblanc dans « La comtesse de Cagliostro ». Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations bien d'autres sur le site de l'Union régionale, fnca-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone, allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité. Joué, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre, c'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5, la radio du Grand Toulouse. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir à tous.